Je lis donc Éphésiens chapitre 3. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Point de suspension, en tout cas dans la version Semeur. Paul, en effet, interrompt sa pensée pour ouvrir une longue parenthèse à partir du verset 2 jusqu'au verset 13. Et puis, il va reprendre sa pensée à partir du verset 14. Donc, Paul, prisonnier de Jésus-Christ pour nous, les non-juifs. Parenthèse, à partir du verset 2. Vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous les juifs. Ils font partie du même corps et ont part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière, pour tout homme, la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité, afin que, par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste puissent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Je suis perdu. Verset 11. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Étant unis à lui par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. C'est pourquoi, donc là, Paul reprend le fil de sa pensée qu'il avait interrompu au verset 1, qui est donc le prolongement du chapitre 2. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement ancré dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Ce matin, nous allons beaucoup parler de secrets ou de mystères. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est un mot qui revient souvent dans ce chapitre 3. J'utiliserai indéfiniment les deux termes, puisque finalement cela dépend des traductions. On trouve aussi bien le mot mystère que secret. Considérez-le comme étant la même chose. Et avant de commencer, je voudrais juste enlever un malentendu potentiel. Parce que dans le sens commun, le mot mystère, secret évoque quelque chose d'impénétrable, d'incompréhensible pour le commun des mortels. N'est-ce pas ? C'est mystérieux, on ne peut pas vraiment comprendre. Mais dans le Nouveau Testament et dans ce texte en particulier, le mystère, c'est au contraire un projet caché pendant un temps par Dieu, mais qui a été révélé, mis en lumière par lui au moment voulu, et en l'occurrence au moment des apôtres, au moment du temps apostolique. Donc, quand vous lisez ou entendez ce mot « mystère » ou « secret », pensez dans votre tête plutôt à « révélation ». C'est important à garder ça à l'esprit au fur et à mesure que nous allons étudier ce texte pour éviter les contresens. Quand Paul compare Christ, par exemple, dans Éphésiens 5, compare l'homme à Christ et l'Église à son épouse, il dit que cela est un grand mystère. Ce qui ne signifie donc pas que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais au contraire, c'est une grande révélation. Le secret, donc, est grand, et j'aimerais ce matin nous amener à considérer combien ce secret, ce mystère révélé, donc, magnifie la sagesse divine et combien cela peut changer notre regard sur l'Église et notre propre rôle. Pour cela, nous allons donc particulièrement étudier les 14 premiers versets de ce chapitre 3, que je découperai en trois parties. Premièrement, le porteur du secret, nous allons nous intéresser à celui qui porte ce secret. Deuxièmement, nous allons nous intéresser au contenu du secret. Et troisièmement, au but du secret révélé. Donc le porteur du secret, le contenu du secret et le but du secret révélé. Qui est donc ce porteur? Tout message à quelqu'un qui porte un message. Tout message à son messager. En l'occurrence ici, c'est Paul qui se décrit comme le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Donc il s'adresse spécifiquement à une population non-juive dans cette église d'Éphèse et probablement plus largement dans la région d'Éphèse. Du fond de sa cellule, Paul écrit des lettres. Ce prisonnier est particulier. Vous me direz, certes, c'est l'apôtre Paul, très bien, mais il a reçu un message particulier. Il dit au chapitre 3, au verset 3, pardon, « Par révélation, Dieu m'a fait connaître le secret de son plan. » Et c'est donc par instruction particulière du Seigneur que Paul a eu accès au message qu'il veut donner maintenant à cette église d'Éphèse. Il insiste au verset 4. « En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension et de l'intelligence que j'ai de ce secret. » Paul a été instruit d'une manière particulière. Lu comme ça, on pourrait se dire que Paul est un personnage assez orgueilleux. Vous pouvez vous rendre compte de la compréhension, de l'intelligence que j'ai. C'est d'ailleurs un reproche qu'on entend parfois, y compris dans nos églises, que Paul serait un personnage à l'ego un petit peu surdimensionné. Mais en fait, en y regardant de plus près, c'est tout l'inverse. Certes, Paul avait une pleine conscience de l'importance vitale de son ministère. Certes, il se savait dépositaire d'un message glorieux, mais avant d'en tirer des conclusions hâtives et d'en faire un personnage arrogant, intéressons-nous aux versets 7 et 8. Regardons-le ensemble, si vous voulez bien. Verset 7, c'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Ce verset est intéressant parce qu'il nous dit, il nous montre à quel point Paul était une personne profondément humble. Il commence à rappeler une chose, je suis serviteur de l'évangile. Celui qui est au service du message. Deuxièmement, c'est un don. Troisièmement, accordé par Dieu. Le don que Dieu m'a accordé. C'est presque un pléonasme en fait. C'est comme si Dieu, comme si Paul disait, c'est le don qu'on m'a donné. Et ça a été accordé par Dieu par grâce. Encore un troisième pléonasme, comme pour bien souligner que Paul n'est pour rien là-dedans. Il est juste le dépositaire du message. Il est celui qui a reçu, au travers de la seule puissance de Dieu, cette grâce de pouvoir annoncer le message. Puis il renchérit au verset 8. Oui, c'est à moi, le plus petit de ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce, encore une fois, d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ. Paul, n'oubliez pas son passé de persécuteur. Il était de plus le dernier des apôtres, d'un point de vue chronologique, et n'avait jamais été au contact de Jésus, comme l'avaient été les autres apôtres. Il avait donc bien des raisons de se considérer comme le plus petit de ceux qui appartiennent à Dieu. Et malgré son ministère glorieux, Paul se définit ainsi. Il utilise un autre terme dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 8 et 9, le terme de avorton. Celui qui n'aurait même pas dû être. Voilà à quel point nous pouvons considérer l'humilité de l'apôtre Paul. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes aussi les porteurs d'une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons conscience de ce privilège et de cette responsabilité aussi? Mais est-ce que parfois ça peut arriver, nous en sommes fiers au point de mépriser les autres qui n'ont pas connaissance de la vérité et qui vivent dans le péché? Ça arrive en tant que chrétien de tomber dans cette tentation. Que Dieu nous garde d'une telle attitude. Que Dieu nous garde d'avoir une attitude arrogante vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas le message de l'Évangile. Et rappelons-nous plutôt, comme l'apôtre Paul, que ce que nous sommes, nous ne l'avons que reçu. Nous ne sommes que les objets d'une grâce imméritée. Et cette pensée devrait nous vacciner définitivement contre toute forme d'arrogance spirituelle. Paul, d'ailleurs, ne se considérait pas comme le seul dépositaire du mystère, puisqu'il a été révélé plus largement à ses apôtres, ses prophètes, ce que l'on voit au verset 5. Et le mot de prophète prend ici le sens de celui qui est chargé de la part de Dieu d'annoncer un message particulier, celui qui est porteur d'un message pour d'autres. Les apôtres étaient donc aussi des prophètes qui ont reçu une révélation particulière de la part de Dieu. On retrouve cette même idée dans Éphésiens 2, verset 20. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Permettez-moi ici une petite parenthèse qui n'est pas liée directement à notre texte, mais qui me semble important d'aborder néanmoins. On entend de plus en plus parler dans les milieux évangéliques d'apôtres, de gens qui se donnent ce titre d'apôtre, mais c'est un titre parfaitement inapproprié dans son sens théologique. On vient de le voir dans l'histoire de l'Église primitive, les apôtres prophètes avaient une mission bien particulière qui consistait à établir les fondements de la doctrine chrétienne. C'était là leur but, c'était là leur mission, construire les fondements qui repose sur Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Ces apôtres avaient été au contact du Christ directement, ou bien dans le cas de Paul, instruits par des visions. Quand un fondement a été construit, il n'y a pas besoin d'en rajouter un deuxième. On ne construit pas un fondement sur le toit d'une maison. Vous serez bien d'accord avec moi. Donc, quand des personnes viennent se prétendant du titre d'apôtre, c'est comme s'ils disaient, bien, nous venons poser un nouveau fondement. Ce qui devrait nous amener à la plus grande prudence face à ces personnes. Elles sont souvent, disent-elles, détentrices d'un message prophétique qui viendrait compléter le message de la Bible. Soyons extrêmement prudents vis-à-vis de ces personnes. Je ferme ici la parenthèse. Nous avons donc vu qui était le dépositaire du message. Voyons maintenant quel est le contenu du mystère. Je vous vois frémir d'impatience. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Alors, vous aimez les mystères? Moi, oui. J'aime bien les choses un peu cachées, secrètes. Je crois que c'est une tendance humaine assez générale. Si vous faites une petite recherche sur le site allociné.com qui recense tous les films existants depuis au moins les années 30, vous verrez qu'il y a 673 films qui portent dans leur titre le mot « mystère » ou « secret », en tout cas tel que ça a été traduit en version française. La tendance humaine d'aimer les secrets, les mystères, ne date pas d'hier. Déjà dans l'Empire romain, dans lequel Paul était né, il y avait une profusion de religions qu'on appelait, enfin qu'on appelle aujourd'hui des religions à mystère. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais on les appelait à mystère parce que il y avait en général plusieurs niveaux de révélation auxquels celui qui voulait, le prétendant, hein, accédant à ces mystères, il devait être initié par quelqu'un qui avait une connaissance supérieure et grimper comme ça des échelons de connaissances. Il grandissait dans la compréhension d'un, d'un mystère caché. On a ainsi, par exemple, dans l'Empire romain, le culte de Mithra, qui était très répandu à l'époque. Mais en ce qui nous concerne, et ce qui concerne la pensée de Dieu, quand notre Dieu veut faire connaître les mystères qu'il a décidé de révéler, il le fait au grand jour. Nul besoin d'aller chercher dans la Bible des choses qui seraient cachées, qui nous amèneraient à un niveau de révélation, de connaissance spirituelle supérieure. Pas besoin d'aller chercher des codes secrets dans la Bible. Quand Dieu veut nous faire connaître sa volonté, il le fait en toute transparence, en toute lumière. Et Paul donc explique le contenu de ce secret au verset 6. Ce secret, c'est que ce mystère, par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous les juifs. Ils font partie du même corps, on part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. Peut-être que vous êtes un peu déçus. Vous attendiez à mieux. Et néanmoins, c'est ça, le grand mystère que Dieu veut présenter à ses lecteurs. Voilà le secret. Grâce à Jésus-Christ, juifs et non-juifs font désormais partie du même corps et bénéficient à ce titre de toutes les bénédictions qui étaient attachées initialement au peuple élu. Remarquez à quel point Paul insiste sur cette vérité centrale en utilisant trois fois le mot « même ». Même héritage, même corps, même promesse, comme pour bien insister sur l'égalité qui règne maintenant entre les deux et qui compose l'Église naissante. Nous avons le même héritage. Nous partagerons la gloire de Jésus-Christ dans son royaume. Nous faisons partie du même corps. Il n'y a plus de distinction entre juifs et non-juifs dans cette nouvelle communauté. Tous forment un seul corps. Nous avons accès à la même promesse. Il fait là sans doute référence au Saint-Esprit. Je vous renvoie là à Éphésiens chapitre 1, verset 13, quand il parle de promesse, il est fait mention du Saint-Esprit. Et quel est le moyen pour arriver à cette situation? Le moyen, c'est la bonne nouvelle, l'Évangile. Et qu'est-ce que l'Évangile? L'Évangile, c'est ça. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. C'est une définition que Paul donne dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4. Donc, qu'en déduisons-nous? Sans l'Évangile, sans la mort, sans la résurrection de Jésus-Christ, le grand mystère prêché par Paul aurait été nul et non avenu. Sans mort, sans résurrection, pas de réunion possible entre juifs et non-juifs. La croix et la victoire de Jésus, voilà ce qui nous assure un héritage, voilà ce qui assure un rassemblement dans le même corps, et voilà ce qui assure la promesse du Saint-Esprit. Alors une question se pose, peut-être vous la posez-vous, finalement pourquoi Dieu n'a pas fait connaître aux hommes des générations précédentes ce mystère? Pourquoi est-ce que cette révélation n'a été faite que à l'époque de Paul? Pourquoi? Peut-être la première réponse, c'est d'abord parce que Dieu est Dieu. Et comme il est dit dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. Parce que c'est lui qui a toute connaissance, qui contrôle le plan, il se plaît parfois à garder certaines choses secrètes. Et c'est là sa gloire. Dites-vous, par exemple, pour avoir un parallèle, parfois les journalistes questionnent les hommes politiques pour connaître des décisions un peu particulières, et l'homme politique ne répond pas aux journalistes. Quelque part, c'est sa gloire de dirigeant de tenir certaines choses cachées. Mais il y a une autre raison, à mon avis, c'est pour mieux faire ressortir l'éclat, la magnificence de cette révélation. Pensons à ceci. Quand on est dans une salle de spectacle, plongé dans la complète obscurité, et puis que d'un seul coup, les feux de la rampe s'allument et illuminent une scène richement décorée, ça crée un effet saisissant, n'est-ce pas? On passe d'un seul coup de l'obscurité à la lumière et ça suscite un sentiment d'admiration, d'émerveillement. Or, le but de ce secret révélé, on va le voir dans cette troisième et dernière partie, c'est bien justement de braquer les projecteurs sur l'immensité de la sagesse divine. Nous allons donc là nous intéresser au but du secret révélé. Pourquoi l'Église a-t-elle été inventée par Dieu? Et c'est un peu la réponse que nous allons voir. Probablement, il y a plusieurs réponses. Pourquoi l'Église a été inventée par Dieu? Mais Éphésiens 3 nous en révèle une dimension extraordinaire et on va pour cela relire les versets 8 à 10. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité, afin que, j'insiste sur ce mot, même s'il n'apparaît pas dans la version Summer, c'est un connecteur logique qui est présent dans toutes les autres versions de la Bible et qui apparaît dans le texte original, afin que, par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste puissent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Afin que. Ce secret a été révélé afin que la sagesse infiniment variée de Dieu soit exposée aux autorités et aux puissances dans le monde céleste par le moyen de l'Église. Le terme grec traduit ici par infiniment varié fait référence à un tissu richement coloré. On pourrait dire que la sagesse de Dieu, c'est un peu semblable à un nuancier qui présente des milliers de teintes différentes. Vous allez chez Leroy Merlin, par exemple, dans la section peinture, et vous cherchez voilà, une peinture pour, repeindre la chambre des enfants. Et, vous hésitez, vous voulez du rose, par exemple, mais le rose, il y en a plein. Alors, le vendeur de Leroy Merlin vous propose un nuancier dans lequel vous avez 50 000 possibilités de rose, du fuchsia, du bonbon, du rose pâle, etc. etc. Et bien, la sagesse de Dieu, c'est ça. C'est un peu un nuancier qui nous présente une palette infiniment variée de couleurs. Vous l'avez bien entendu, l'Église universelle, l'Église avec un grand E, en tant que réunion des juifs et des non-juifs, elle existe pour manifester l'étendue de la sagesse de Dieu aux autorités célestes. Elle est, l'Église, la grande scène au travers de laquelle Dieu expose aux puissances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, la diversité infinie de la sagesse de Dieu. C'est un objectif cosmique, glorieux, inimaginable à vue humaine, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça notre vision de l'Église? Quand les démons voient l'Église, ils sont obligés de reconnaître combien ce Dieu qu'ils détestent est sage. Alors qu'ils pensaient avoir gagné la bataille lorsque Christ a été crucifié à Golgotha, c'était en réalité le point de départ de l'extension des bénédictions de Dieu à des millions de gens de toute langue, de toute nation. De leur point de vue, quand ils voient l'Église, c'est une désolation, c'est une révélation, une manifestation glorieuse de cette sagesse de Dieu. Quand les anges voient l'Église du haut des cieux, ils admirent combien le Dieu qu'ils servent est sage. Ils peuvent apprécier le fait que des hommes et des femmes qui étaient autrefois hostiles et sous emprise sont maintenant réunis ensemble pour adorer leur Créateur. C'est dingue, non ? Quand on pense à ça. Nous existons, l'Église existe pour manifester la sagesse infiniment variée de Dieu aux puissances célestes. Cette vérité donc concerne l'Église, avec un grand E, l'Église universelle. C'est un peu comme un grand tableau coloré. Mais cette vérité, elle se décline en autant de petits détails picturaux. Un tableau est composé, un grand tableau devant vous, et ce tableau qui représente une scène, vous pouvez en repérer des personnages, un animal, un arbre, etc. Et notre Église est en quelque sorte un détail picturale de ce grand tableau. Quand on pense à notre petite assemblée, ici à Palaiseau, est-ce qu'on a conscience du témoignage cosmique, et j'ose utiliser ce mot parce que c'est ainsi qu'il faut le voir, est-ce qu'on a conscience du témoignage cosmique que nous représentons face aux puissances célestes? Que Dieu vraiment nous garde d'avoir une vision étriquée du rôle de l'Église, de la réduire à un simple club de MJC où on se retrouverait tous les dimanches parce que c'est sympa ou pour consommer tel ou tel service. Que personne ne vienne sous-estimer la place de l'Église dans le plan divin parce que c'est une place glorieuse. Que cette vérité d'Éphésiens nous pousse à vouloir être ce que nous sommes en tant que manifestation locale de la grande Église de Dieu, à savoir un corps uni dans l'amour, malgré de multiples différences, qui vit l'Évangile individuellement et collectivement, pour manifester la sagesse infiniment colorée de Dieu. Pensons-y collectivement, alors que notre Assemblée est en train de réfléchir à sa vision, et je rappelle donc l'atelier du 18 novembre, à laquelle vous êtes invités pour réfléchir sur la vision de notre Église, en quoi sommes-nous appelés par Dieu. Pensons aussi à cela. Alors, pour celles et ceux qui ne feraient pas partie de la famille de Dieu, peut-être qu'ils s'en trouvent parmi nous ce matin, pourquoi attendre? Pourquoi rester à l'écart de ce plan évoqué précédemment et dont vous pourriez faire partie? Pourquoi attendre d'être vous aussi partie prenante de ce grand tableau que Dieu a voulu? Encore aujourd'hui, Dieu vous appelle à lui faire confiance en reconnaissant Jésus-Christ comme son Fils et le Seigneur de votre vie. Nous arrivons à la fin de ce message que j'aimerais terminer par une prière. Cette prière, c'est celle que Paul adresse à Dieu pour les Éphésiens, à partir du verset 14. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce verset 14 est la suite du chapitre 2. Et elle fait suite donc à la conséquence de l'intégration des non-juifs au peuple de Dieu que Paul venait d'exprimer à la fin du chapitre 2. Je vous lis donc simplement cette prière et la commenterai très brièvement. C'est pourquoi, verset 14, je me mets à genoux devant le Père. Oui, que l'humilité guide nos demandes, car celui à qui nous les adressons est un Dieu très grand. Paul avait conscience à qui il s'adressait. De qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre, je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Est-ce que vous avez déjà fait cette demande à Dieu pour vous-même, pour vos frères et sœurs, pour votre mari, votre femme? Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance? Personnellement, ça m'arrive assez rarement. Pourtant, c'est là la demande de Paul pour les Éphésiens. Ça peut être aussi notre demande pour nos vies, pour la vie de nos frères et sœurs, la vie des gens qui nous sont proches, d'être fortifiés avec puissance. Nous avons besoin d'être fortifiés, parce que notre nature est faible. Verset 17, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, élevé, profond, long. Je ne le dis pas dans l'ordre. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Quand le Christ prend possession de toutes les pièces de notre cœur, et c'est sans doute ainsi qu'il faut comprendre ce verset, que le Christ habite dans votre cœur dans la foi. Il s'adresse là à des chrétiens donc, qui ont déjà Christ en eux. Mais cette prière, c'est que Christ prenne possession de toutes les pièces de la maison, en quelque sorte, que rien ne lui soit caché. Quand Christ vit en nous pleinement, notre compréhension de son amour multidimensionnel s'élargit, même si nous ne pourrons jamais le comprendre totalement. C'est alors que nous sommes remplis de sa plénitude, satisfaits, vraiment, totalement. Pas besoin d'aller chercher de la plénitude ailleurs, dans des expériences spirituelles supérieures, dans des révélations ou que sais-je. Comment être satisfait pleinement? Comment être rempli de la plénitude de Dieu? Tout simplement en laissant Christ vivre en nous, en étant fondé dans l'amour. Alors nous connaîtrons sa plénitude. Verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Voilà, même au travers de nos prières limitées, de nos petits objectifs, de notre foi bien souvent vacillante, Dieu peut réaliser bien au-delà. Et c'est un verset, une promesse absolument bouleversante. Quand vous serez chez vous ce soir, je vous encourage vraiment à prier de cette manière, à garder cette pensée à l'esprit. Dieu peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous lui demandons et même de ce que nous pensons. Il y a des choses qu'on n'avait pas imaginées pour notre vie, on n'avait même pas osé le demander à Dieu, et bien même ça, Dieu, il peut le faire. C'est le Dieu de la démesure, c'est le Dieu de l'infini, c'est le Dieu d'une sagesse infinie. À lui soit vraiment toute la gloire. Amen.